Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque d'En Suisse, où nous avons rendez-vous avec Charles Sagalan, poète québécois qui est actuellement en résidence aux Nouvelles Hybrides. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Alors, avant de parler de ton travail, on va parler de ta localisation au Québec, parce que quand on parle Québec, on pense souvent à la ville de Québec et à la ville de Montréal, mais tu n'habites ni dans l'une ni dans l'autre, et ça a une importance dans ton travail.
Effectivement.
Peux-tu nous expliquer où tu habites?
Oui, bien, je suis à 500 km au nord de Montréal, dans une région qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il faut imaginer un fjord pour le Saguenay, puis un grand lac d'eau douce pour le Lac-Saint-Jean, qui actuellement est tout à fait gelé. On peut facilement marcher encore dessus, même rouler en véhicule. Donc, je profite de votre printemps.
Tu es écrivain, poète, et tu te définis notamment comme un poète indisciplinaire. Qu'est-ce que tu caches derrière ce mot?
Bien des choses. Ça a été ma façon à moi d'essayer de ramasser mon travail dans une appellation mobile parce que je me suis rendu bien compte que dès le début de ma pratique, j'aimais beaucoup la liberté de tricher la littérature avec d'autres disciplines. Je me sentais pas du tout un artiste multidisciplinaire. Donc, si je faisais de la photographie, du land art, j'allais un peu du côté de la performance ou de l'installation, je voulais me donner cette liberté-là, mais sans avoir à me reconnaître un artiste multidisciplinaire. Donc, j'ai repris le terme de Myriam Souchet et via l'écrivain Daniel Canty. Donc, le mot « indisciplinaire » me plaisait bien pour le côté indiscipliné et disciplinaire pour non seulement les disciplines artistiques, mais aussi les disciplines que je pratique. Ça peut être aussi bien, pour moi, la littérature se marie avec... pour un recueil, ça va être la cueillette sauvage, la dégustation, la cuisine. Pour un autre, ça va être l'ébénisterie, le canot camping, les raquettes. J'aime bien que la littérature soit hors les murs.
Tu as sorti il y a quelques mois un livre, Journal d'un bibliothécaire de survie, qui est ton 7e livre aux éditions de la Peuplade. Les 6 premiers livres sont clairement des livres de poésie. On y retrouve des poèmes en prose, en vers. Dans l'avant-dernier, Bric-à-brac au bord du lac, on a notamment des calligrammes, des caviardages, c'est-à-dire des textes où tu arraches des pages que tu masques pour créer des poèmes. Donc plein de formes différentes. Et celui-ci, de la bibliothèque de survie, est vraiment différent. C'est un récit, mais un récit qui est un peu, comment on va dire, parasité ou perturbé par de la poésie. Tu peux nous en...
Oui, c'est un beau parasitage, c'est un parasitage. Pour moi, c'était une approche de la poésie qui était différente, effectivement. C'était une manière de témoigner de mon travail poétique, de ma vision poétique. Contrairement à tous les autres livres, ça c'est pas un livre qui s'est construit en me disant « j'aimerais travailler sur tel domaine, je vais travailler sur mes saveurs ou sur mes costumes ou sur mes objets ». C'est un livre qui est né à la base d'un acte, d'un geste de poésie. Je me suis dit « qu'est-ce qui se passerait si j'allais porter un livre devant chez moi ? » Il y a des îles devant chez moi. J'ai mis un livre dans un petit sac Ziploc avec crayon papier, puis je suis allé le porter sur une des îles. C'était en décembre 2013, donc j'ai pris mes raquettes, j'ai marché, j'ai déposé le livre. Puis le but, c'est de voir qu'est-ce qui allait arriver de ce geste-là. Au début, c'était presque une boutade. Je me disais, j'ai appelé ça bibliothèque de survie parce que je me disais, si les gens se perdent, ils vont réussir à mâchouiller quelque chose puis à prendre de l'eau douce, mais ils vont se mourir d'ennui. Donc, je vais les sauver. Et chemin faisant, je me suis laissé prendre au jeu. Au bout de quelques années, les gens qui nous écoutent n'auront pas la carte, mais ils pourront aller voir sur mon site Internet. Au bout de quelques années, j'ai 17 petites bibliothèques devant chez moi que j'avais confectionnées en bois avec les croûtes et les retailles pour protéger les livres. Puis je me suis créé comme ça un petit réseau de bibliothèques. métier de bibliothécaire de survie. Et petit à petit, toute une confrérie aussi qui est venue avec l'aventure. Donc, parce qu'au bout de quelques années, j'ai eu le goût de me déplacer dans le Canada francophone, puis d'aller dans ce que j'appelle des îlots de francophonie, parce que plus on s'éloigne du Québec, plus ça finit par être restreint. Puis aller voir des communautés où je trouvais un écrivain, une écrivaine. Je lui demandais d'être mon bibliothécaire de survie. J'apportais la bibliothèque, on mettait des livres, puis cet écrivain, écrivaine-là s'occupait du lieu. Et donc, moi, je racontais l'aventure. Donc, le livre raconte cette aventure-là de mon séjour sur les îles, mais aussi de voyage à travers le Canada francophone.
Tu peux nous présenter un de tes bibliothécaires de survie à travers le livre?
Oui, je peux vous présenter un bibliothécaire de survie.
Ah oui,
une. C'est un gros livre, hein? Faut savoir se retrouver à l'intérieur. J'ai mis la page des matières justement pour ça. Je vais me lever, ça va être plus facile pour la lecture. Annie Landreville. Chaque écrivain, chaque écrivaine est un territoire. Ses confins et ses ressources délimitent l'archipel des lettres à venir. J'aime la richesse de la cartographie d'Annie Landreville. Sa présence affirmée sur les terres du Bas-Saint-Laurent, autant que ses ailleurs de création. Notre premier contact a eu lieu au mois de la poésie à Québec, où il faisait la paire avec Laurence Veilleux. J'étais en performance de rue et les deux poètes ont participé à mon animation. Nos atomes crochus d'indiscipline littéraire se sont chargés du reste. Je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à fournir pour convaincre Annie de devenir une collègue de survie. Elle maîtrise les ressorts de tels projets. Des années à la radio publique, une implication tout azimut dans les organismes culturels de sa région et un poste d'écrivaine à temps plein la désigne comme collaboratrice précieuse. Après mon coup de foudre pour l'île aux amours, je vois mal comment elle aurait pu me convaincre d'un autre refuge. Du reste, l'endroit lui convient très bien et elle m'y accompagne. La pause de la bibliothèque s'annonce plus facile que je ne l'aurais cru. Je dois égrener les distances, mais la compresse de choux a opéré des miracles. J'étais blessé au pied. Je peux y aller d'un bon millier de pas par jour. Si je m'en tiens à ma diète piétonne, l'enflure ne reviendra pas. Sur la bande sablonneuse menant vers l'île à marée basse, nous faisons quelques escales, déposons la cabane alourdie par les livres. Mon pied peine à supporter autant de charges et la chaleur règne. Annie a mis un chapeau à large bord pour se protéger du soleil. Sur la photo qu'elle a prise de moi, accroupie et les bras posés sur ma première bibliothèque de l'Est, j'ai un large sourire. Nous clouons la cabane sur le tronc d'un grand pin, abattu à la lisière du boisé, là où un escalier rudimentaire donne accès au sentier qui parcourt l'île. Sur fond de havre et de marée, ce refuge de lecture à fière allure. Annie y dépose une citation tirée de son cabinet de consultation, des prescriptions poétiques, ainsi qu'un recueil de Laurence et un roman d'amour. Visiteuses et visiteurs engendreront la suite. Voilà.
Tu as combien de bibliothécaires?
Une bonne quinzaine, entre 15 et 20. 15 et 20.
D'accord.
J'ai des... Parfois, c'est des assistants, des maîtres assistants. Il y en a dans la salle ici que j'essaie de convaincre de devenir bibliothécaire à plus long terme. Parfois, c'est des écrivains que j'ai repérés de longue haleine qui vivent à Marseille. Donc, voilà. Je suis toujours en mode collaboratif.
Quand on ouvre le journal, on voit des pages de récits, mais on voit aussi des petites formes très identifiables qui sont des haïkus. Oui. Et donc c'est une forme vraiment particulière de récit en prose coupé par des haïkus qui te vient d'un goût pour le Japon.
Exactement.
Tu as une histoire avec le Japon.
Oui. Le voyage est d'ailleurs fait en 2013. 2013, avant de faire mon geste un peu fou de mettre un livre dans un sac puis d'aller voir ce qui se passait, rétroactivement, j'ai, j'ai trouvé que j'avais deux gestes un peu fondateurs. Pendant l'été, je suis allé voir l'étang de Walden et la cabane de Thoreau. J'ai beaucoup lu, puis j'ai fait ce petit pèlerinage-là au musée, etc. Donc, ça a semé quelque chose dans mon esprit. Juste avant ça, à la même période que maintenant, pendant les cerisiers en fleurs, je suis allé un mois au Japon. Pour moi, ça a été assez révélateur. J'ai vraiment incarné toutes mes lectures japonaises que je faisais depuis très longtemps, et notamment celle de Basho et de toute l'école de poésie, donc de haïku qu'il avait. J'ai vu comment la nature était révérée au Japon. Et pour moi, ça le fait le lien entre un peu deux parties de mes appartenances imaginaires. Donc, ma partie, on pourrait dire, euro-canadienne, donc française de souche, puis une petite branche dans mon arbre généalogique qui est inou, autochtone de chez nous. Donc, il y a encore au Japon le côté animiste, le côté de révération envers la nature. Donc, ça a vraiment donné à mon regard une espèce de liberté d'associer ces deux pans-là de notre tradition. Déjà en 2013, on ne parlait pas beaucoup de littérature québécoise chez nous. Là. À peine Joséphine Bacon venait de publier. Il y avait... Donc maintenant, c'est très fort, il y a beaucoup de richesses. Donc, je suis content que ça ait fleuri aussi. Donc, ça a été... Le Japon m'a donné cette liberté-là, puis m'a montré des formes comme le journal poétique ou la liberté d'avoir une prose très lyrique avec des petits haïkus qui viennent donner une espèce de petit souffle léger là, à l'écriture. Donc, l'écriture décrit ce que l'haïku donne comme raccourci, si on veut.
Et directement au début de la mise en place des bibliothèques, il y a eu cette idée de faire un journal ou il y a eu un délai?
Non, il y a un délai. Il y a une journée, il y a eu l'idée de remplir mon carnet, comme toujours. Et le carnet se remplissait au fil des saisons, assis dans la neige ou sur la mousse ou sous un arbre, dans le sable. Puis plus j'avais... J'aimais beaucoup ce que j'écrivais. Je trouvais que c'était une parole de territoire qui était... Qui passait bien puis qui avait une espèce de force. Donc, l'idée est venue de rassembler tout ça. Puis après ça, est venue l'idée d'avoir un pan du travail qui était sur les lieux puis un en voyage. Donc, tranquillement, pas vite, ça s'est construit comme ça.
En dehors du Québec, les bibliothèques sont où?
En dehors du Québec, je me suis commis à Paris sur l'île aux Cygnes. S'il y en a qui connaissent, c'est pas très loin de la Tour Eiffel. Il y a une longue digue qui a été aménagée il y a une centaine d'années où il y a des très, très beaux arbres centenaires. Donc, c'est presque une rangée avec des balustrades sur le côté. C'est à peu près deux fois large comme la bibliothèque ici. C'est vraiment pas très large, magnifique, avec des arbres de partout. Donc, j'ai confectionné une petite cabane là-bas que j'ai posée. Je suis allé en Guadeloupe juste avant la pandémie et j'y suis retourné juste avant de venir ici. Donc, à ce moment-là, j'ai déposé vraiment mode sac avec juste le petit écriteau. Et puis, ben ici, j'ai réussi à passer dans la valise pour la première fois une véritable cabane. Donc, en mode assez léger. Donc, ce sera dans le fond, la toute première qui est confectionnée, genre de cabane qui tient le cap sur les îles. Donc,
la première en France?
Première en France. Ben, la première hors Canada, en fait. Et oui, le Luberon.
Voilà.
Et même en Suisse, même plus précisément.
Le journal, là, correspond à combien d'années?
J'ai à peu près arrêté de prendre du matériel dans la publication. Le journal est publié en 2021. J'ai arrêté de prendre du matériel en 2019. Ce qui fait en sorte que là, je me retrouve avec presque un tome 2 parce que de 2019 à aujourd'hui, j'ai quand même du matériel. Faut savoir que dans ce projet-là, c'est assez long. Hein? Il y a 4000 heures de travail avant la publication. Donc, il y a beaucoup de travail. Quand je trouvais que c'était... j'ai trouvé que c'était un peu donquichottesque. Et en 2019, je me suis un peu réconforté. Je suis allé visiter le palais idéal du facteur cheval à Autriche. 93 000 heures, je me suis dit, je suis encore capable. j'ai beaucoup travaillé parce que, comme c'était de la prose, j'ai donné à lire à 5 écrivains que je connais. Une romancière, quelqu'un qui fait de l'écriture du réel, plus journalistique, un écrivain qui est à l'extérieur du Québec, une autre qui travaille précisément sur le haïku. Et donc, plus mes deux éditeurs. J'avais 86 000 mots quand j'ai remis à mes éditeurs, puis ça a fondu à 56. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail. Maintenant, j'ai compris que j'écrivais en prose un tiers de trop. Donc, je coupe pas mal à mesure. C'est tout un métier quand même d'arriver à un moment donné, donner une certaine légèreté. Dans ma tête, c'était comme une rivière. Je me disais, non, il y a un peu trop de... Il y a trop de détours. Il faut donner un certain rythme, une certaine vivacité. Donc, voilà.
Dans le journal, on voit des passages qui sont liés à la question du goût, des saveurs. Ça, c'est quelque chose qui est dans ton travail depuis quelques années. Tu avais notamment écrit un livre de poèmes avec cette idée de goût, des saveurs, qui est quelque chose qui est assez peu traité en littérature. On traite souvent du son, des choses qu'on peut voir. J'aimerais bien que tu nous lises un passage qui va nous ouvrir l'appétit.
Oui, effectivement. Ou peut-être pas, je vais te lire celui que est-ce que vous préférez avoir un passage sur « Je peux vous amener prendre un thé » ou « Je peux vous amener à un resto japonais qui n'a pas été tout à fait à la hauteur » Qu'est-ce que vous préférez? Vous avez des préférences ou vous me laissez le choix? Vous me laissez le choix, tiens. Allons-y, on va se retrouver au 312. On se retrouve à Minneapolis, dans Minnesota. J'ai dit que j'allais faire des voyages. Pour ce voyage-là, mon voyage de l'Ouest, j'ai fait 9000 km dans un grand pays. Puis je me suis rendu au milieu du pays parce que aller-retour, c'est 12000 km. Mais donc, j'ai fait 9000 km, mais j'ai fait quand même un petit détour en faisant tout le contour du lac Michigan pour me rendre à Chicago et puis pour aller aussi à Green Bay parce que j'aime beaucoup le football américain. Donc, je suis allé voir un match là-bas. Je suis remonté. Donc, ça, j'en parle dans le voyage, mais là, je suis au resto japonais que je me suis offert cette soirée-là. Cadeau nomisé. Le mobilier de chêne et de cuir blanc ne fait aucun doute. Mon appétit m'a conduit dans un chic restaurant. Pour l'élégance du contraste, le personnel déambule vêtu de noir. Les clients ne se doutent pas que l'endroit est familièrement nommé le restaurant du coin. Cadeau nomisé. J'apprivoise les lieux en parcourant la riche carte des sakés. Celui que je commande ne tarde pas à m'être présenté. Ses reflets rosés se veulent aussi poétiques que son nom, parchemin de fleurs de cerisier. Il embaume le miel de chèvrefeuille et la pulpe de prune. La bouteille est lancée, au prix prohibitif, sera gardée sur glace. On me servira à la mode japonaise, sitôt le verre se vidant. Nous sommes le 17 octobre et je vais célébrer mon 50e anniversaire avec 2 mois d'avance. Je ne le dirai à personne. Là, j'ai un petit haïku. Distingué saké, si je dois m'envoler, tu seras mes ailes. Un encas de carottes et d'énoki marinés m'est offert. J'apprécie la tige délicate des baguettes. Elle prépare au personnage principal, l'assiette. Je reluque les galbes de mon verre, sans pied, au fin rebord et d'un format idéal, plus petit que celui dédié d'ordinaire au vin blanc. À peine plus grosse que le pouce, bijou délicat, les huîtres Kumamoto font leur entrée. On les a noyées dans une mignonnette au soya qui ruine la demi-douzaine que j'ai sous les yeux. Pour en avoir le cœur net, je commande une huître vierge, sa fraîcheur charnue, aux notes salines et florales, me convainc de l'hérésie commise. On n'est pas japonais qui veut. Pour être parfait, restez simple, professeur Ray Sensei, donc Basho. C'est le cas du plat suivant. Bouillon fumant, comme je les aime, les nouilles au matcha répandent leur arôme sur la langue. Pour clore le repas, le tempura kakiage n'est pas des plus croustillants. Je me suis fait à l'idée depuis un moment. La soirée n'approchera pas les envolées marines de chez Saint-Pierre. En survie, il faut rester modeste. Voilà. La dernière fois, j'avais lu chez Colombe Saint-Pierre, qui est un restaurant québécois qui est fabuleux. Donc,
là, il faudra prendre le livre pour,
ouais.
pour découvrir.
Pour avoir le bon menu.
Tu nous as expliqué donc que tu déposais ces bibliothèques dans différents endroits plus ou moins reculés, on va dire,
oui.
ou isolés.
Oui.
Il y a un peu une exception dans le livre, c'est l'aventure montréalaise.
oui.
Je pense qu'il faudrait que tu la partages avec les gens ici.
Ok. Ouais, puis là, il y a quoi de mieux que de... En fait, dès que mes bibliothèques sauvages, donc je dis que j'ai une bibliothèque à ciel ouvert, où les livres ont une vie sauvage. Dès que je m'approche des grands centres, il y a des problèmes. Les gens confondent souvent les bibliothèques de survie avec les bibliothèques communautaires, où on met des livres puis on en reprend. Donc, mon concept, moi, c'est vraiment, vous imaginez une cache de survie où faut que le livre soit là et qu'il dure le plus longtemps possible, parce qu'en cas de risque nucléaire, il faut être capable de lire sur l'endroit où on s'est perdu. Donc, c'est un peu survivaliste, mais ça fait partie du charme du mot survie. Et j'ai quand même travaillé fort pour coloniser les parcs, les îles, les caps de certaines villes. Donc, pour mon voyage du Sud, je voulais avoir des bibliothèques de survie à Québec et Montréal. Donc, à Québec, c'est sur le Cap Diamant. Et le Cap Diamant, il se trouve que... il y a plusieurs milliers d'années, au temps où les grands lacs actuels étaient encore plus grands et il y avait un sixième très grand lac, c'était une île. Donc, je l'ai placé là. Le Mont-Royal, à Montréal, fait partie des Montérégiennes. Et ce sont un peu comme le Mont Fuji, ce sont des volcans. Donc, je mets cette idée-là aussi d'être sur le Mont-Royal. Mais il faut savoir que sur le Mont-Royal, qui est l'espèce de poumon vert de la ville de Montréal, avec sa grande croix puis ses sentiers, il passe 5 millions de visiteurs par année. Donc, c'est un lieu où l'aspect sauvage tient parfois un peu de la carte postale. Alors, je fais ma belle envolée sur le Mont-Royal. Je pose les livres avec mon collègue Bertrand Laverdure. Il prend même un beau petit Polaroid de moi en train de poser la bibliothèque. À l'intérieur, il y a les mots des lecteurs. Il y a beaucoup de... les pages caviardées. Je me suis amusé à mettre le plus d'éléments possibles de l'aventure. Et donc, on fait ça. Et là... Je suis à peine arrivé chez moi que je reçois ce message. Quelques jours plus tard, me parvient un message du chef de la conservation des Amis de la montagne, en date du 17 mai. Bonjour, Monsieur Sagalan. Nous avons pris connaissance de la présence de la bibliothèque de survie du Mont-Royal. Elle a été déplacée et certainement ramassée par les employés municipaux. Nous avons cependant récupéré 4 livres dans le boisé que vous pouvez venir récupérer à la Maison Smith dans le parc du Mont-Royal. Nous comprenons votre démarche et sa pertinence, mais le contexte particulier du site patrimonial du parc du Mont-Royal ne permet pas de réaliser ce type de projet sans planification ni autorisation de la ville de Montréal. L'emplacement de la bibliothèque est certainement primordial, mais il conviendra de ne pas la placer en milieu naturel pour de nombreuses raisons de conservation. Nous vous suggérons de prendre contact avec le service des événements publics de la ville de Montréal si vous désirez poursuivre le projet. N'hésitez pas à me contacter pour récupérer les livres ou si vous avez des questions, cordialement. Et c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc voilà, c'est une aventure vivante, hein? Il y a de l'art éphémère, si vous connaissez Sophie Kahl, si vous... Il faut s'y habituer. Moi, j'ai fini par apprécier l'idée qu'il y a des autos d'affaires qui brûlent les bibliothèques, qu'il y a des usagers qui referment mal les sacs, qu'il y a donc... je me retrouve avec, en fait, chez moi, 3 bacs, les livres qui sont bons à lire, les livres qui sont juste assez abîmés pour que je puisse les caviarder et faire des ateliers d'écriture avec, et les croûtes intégrales qui devront finir dans une exposition de survie que je suis en train de concocter tranquillement, pas vite. Je fais du recyclage ultime. Mes bibliothèques, c'est déjà du recyclage. Puis demain, on ira marcher, mais je me fais des bâtons de marche avec les recyclages de mes bibliothèques. Donc, je suis dans le niveau 3.0 de la démarche écologique.
On a compris comment tu embarquais des gens dans ton projet comme bibliothécaire, mais il y a la question des non-bibliothécaires aussi, des gens qui vont tomber par hasard sur les bibliothèques. Quel retour tu as de leur part, si tu en as? Et comment aussi tu amènes des gens à découvrir ces bibliothèques?
C'est une belle question, on dirait que tu connais mon travail sur le bout de tes doigts. C'est assez fabuleux parce que, en fait, dans ma démarche, il y avait de plus en plus d'éléments qui étaient collaboratifs, participatifs, interactifs, dans la conception, dans la diffusion de l'œuvre, etc. Mais la bibliothèque de survie, ça a complètement renversé ça. Donc, j'ai pris contact avec le lecteur ou la lectrice avant même qu'ils le deviennent. Donc, c'était des visiteurs et des visitrices de survie, on pourrait dire. Puis au début, comme quand on écrit un livre, on n'a pas de lecteur. En tout cas, c'est difficile d'avoir un lecteur qu'on s'imagine très bien. C'est toujours très, très flou. Je me suis trouvé avec la bibliothèque de survie, petit à petit, à avoir beaucoup de retours sur la démarche. Donc, des gens qui passaient là par hasard, qui disaient, ou même je faisais une communication, une conférence, puis « Ah, c'est toi le lecteur de survie! » Les gens ne connaissaient pas ma démarche, mais ils connaissaient ce travail-là. Et petit à petit, je me suis plu aussi à faire des symposiums des poésies de neige, à amener des gens en raquette une fois par année, à leur faire vivre un événement sur les îles, etc. Puis quand le livre est paru, faut savoir qu'entre-temps, les îles sont devenues un parc national. J'ai réussi à avoir le droit acquis de laisser les bibliothèques, puis même petit à petit à devenir un guide poétique sur les îles. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à avoir des retours, comme j'ai reçu des lettres de lecteurs et lectrices qui témoignaient de leur lecture de l'œuvre, mais aussi qui me proposaient des lieux, etc. Après ça, j'ai accueilli des gens pour faire des déambulatoires sur les îles, pour faire des ateliers d'écriture. Là, présentement, je pose des petits haïkus pyrogravés sur les îles. Donc, il y a comme toute une occupation poétique du territoire qui est là. Et là, je suis presque à la remorque, presque j'ai reçu, par exemple, quelqu'un d'une autre CEPAC, d'un autre parc national qui dit « Il faut absolument cet été que tu viennes placer une bibliothèque », qui a fait les démarches pour moi. Une autre lectrice qui me dit « Je suis en Témiscouata, j'aimerais que tu viennes, on a un lac ». Les gens ont compris le concept. Donc là, moi, je suis à la remorque du projet. C'est pour ça que le projet continue d'une certaine manière. Et pour moi, c'est non seulement un accélérateur d'écriture, ça me fait écrire beaucoup, mais il y a quelque chose là-dedans qui tient de la dépendance d'auteur, parce que moi, attendre un lecteur, le retour d'un lecteur au bout de 2 ans, maintenant, je côtoie des gens. Ici, il y a le Lionel Guin qui est venu avec moi faire le repérage. Pour moi, c'est un collaborateur au sens plein. Il m'a parlé de plein d'éléments. Donc, pour moi, ça devient une espèce de confrérie avec lectrice et lecteur, avec libraire. avec bibliothécaire officiel comme ici Véronique, qui m'a mis en contact avec Lionel. Donc, je me considère comme bibliothécaire en chef de survie. Je me garde le titre. Mais c'est vraiment un projet très mobile, très modelable aussi, selon les... Puis, j'aurais jamais pensé que le geste fou de poser un livre me mènerait ici aujourd'hui avec vous. Là. Donc, je ferme pas le rêve. Je me dis qu'éventuellement, l'ultime, c'est de placer une bibliothèque de survie sur la Lune. Rendu là, j'arrêterai.
Peut-être que les nouvelles hybrides ont des contacts pour une résidence d'auteur sur la Lune.
Peut-être. Je vais commencer par la Mélanésie ou la Polynésie française pour m'habituer à la distance un peu. Puis, je ne sais pas, mais voir la Terre bleue, il faut commencer par beaucoup d'eau turquoise, puis ça nous forme l'œil. Puis après ça, on peut... Si tu te demandes, il est fou, ça, c'est quoi?
Dans les développements de l'aventure des bibliothèques de survie, il y a des développements notamment avec des tours opérateurs. Tu peux nous en parler. Et puis d'autres projets qui sont en lien avec le territoire.
Tu vas vraiment me faire passer pour un débridé, là, hein, c'est ça? En fait, c'est toujours des opportunités, hein, parce que dans mon... espèce de personnage principal de mon premier livre qu'on voit, c'est mon ami Diego qui fait de la carrosserie au village, mais qui s'occupait de la bibliothèque du village, qui dès le début a embarqué avec moi parce qu'il avait ses raquettes, son canot, il plaçait des livres, puis donc c'est devenu l'espèce de personnage qui m'a accompagné. Pour la suite, j'ai un autre ami qui s'appelle Hugues, ben, en fait deux amis, Hugues et Jean, qui vont m'amener dans des sentiers différents. Mais Hugues a une entreprise de tourisme. Il se trouve à avoir beaucoup de beaux jouets pour un écrivain disciplinaire, comme des kayaks, des bateaux, des fourgonnettes. Il a un de ses sites qui est à l'Auberge des Îles, juste devant chez moi. Donc, on a concocté... l'idée, quand les gens viennent louer un kayak ou un canot pour la journée, maintenant, je leur ai concocté un petit document qui s'appelle « Trois activités de survie ». Donc, un petit dépliant avec des outils à l'intérieur, crayons, cartes postales personnelles, trucs à pages à caviarder, etc. Puis les gens vont faire la petite tournée de trois îles avec une série d'activités familiales à faire sur les îles. Donc ça, c'est une déclinaison possible de ce que je fais en atelier d'écriture ou tout ça, mais lié à ma bibliothèque de survie. Donc le but, c'est de pas se donner de décloisonner vraiment la présence poétique. Puis quand les gens ont le goût de faire quelque chose, de bonifier, que ce soit une nuitée quelque part, une excursion, etc., ben ils savent qu'ils ont juste à cogner à la porte du poète, puis... je vais y mettre un petit peu de poésie dans l'aventure.
Et ton autre ami?
Mon autre ami, Jean, il est au Japon présentement. Je serais avec lui si je n'étais pas avec vous. Mais je suis très content de faire mes cerisiers en fleurs ici. Il m'envoie des photos gourmandes, ça. Je l'ai pisté vers le marché aux poissons de Tokyo, puis de Kyoto. De Tokyo, puis des restos de Kyoto, puis il n'en revient pas. Avec mon ami Jean, j'ai été enseignant, puis qui est enseignant, lui, qui a démarré un programme de ressources phoniques dans son école. Donc, votre collège à vous, chez nous, c'est l'école secondaire. Et moi, j'avais fait des lectures de Shinrin-yoku, c'est le bain de forêt à la japonaise, une espèce de pratique de méditation. Donc, comme méditation pleine conscience, mais qui se fait en marchant. Peut-être que demain, on essaiera un petit 10 minutes ensemble, si vous avez le goût, devant un cerisier en fleurs. Ça pourrait être chouette. Et mon ami Jean m'est arrivé un matin en disant « Regarde la formation qui se fait. » Ça commençait à se faire. En fait, On est devenus tous les deux des guides certifiés de Shinrin Yoku. Il y en a une quinzaine au Québec, il n'y en a pas beaucoup en France non plus, ni en Suisse, ni en Belgique. C'est une Montréalaise qui donne ces formations-là à l'échelle de la francophonie. Et donc là, elle accompagnait les gens au Japon. Et donc, je suis devenu guide de Shinrin Yoku avec Jean, et cette pratique-là m'aide non seulement à guider, mais à créer plein de beaux projets scolaires, plein de sorties, et dans mon écriture, à avoir une partie qui est liée aux invitations de la nature. Donc, plus ça va, plus je considère la nature comme co-créatrice de mes écritures. Elle me fournit de ce qu'il y a à voir, puis moi, je témoigne, mais j'ai pas l'impression de tout inventer. Dans les écritures du réel, donc plus la nature est belle, plus je fais le travail de secrétaire.
Parmi ce qu'on va forcément trouver dans le tome 2 du journal, il y a tes expériences au centre Bang. Tu peux nous en
Oui,
parler?
à la forêt Bang. C'est oui, dans le tome 2, ben, j'ai décidé de coloniser la forêt. C'est plus facile que d'aller sur les îles. Et il y a une forêt, un centre d'artistes qui ont décidé ils se sont procurés une forêt, puis qui ont décidé de faire des expérimentations artistiques dans cette forêt-là. Et je fais partie de l'aventure. On m'envoie plein de photos aussi ces temps-ci avec les tentes de prospecteurs sous la neige, les aventures. Et donc, je vais me projeter dans les prochaines années avec ce groupe-là. Et mon idée, c'est de créer une forêt littéraire. Donc, j'ai plein d'éléments qui sont liés à ma pratique. Ça va se passer aussi des allers-retours avec des classes d'élèves du primaire, d'élèves de chez nous du secondaire. Donc, disons, de maternelle jusqu'à une quinzaine d'années. Donc, mais aussi des artistes professionnels qui viennent, qu'on va pouvoir inviter, et aussi des groupes témoins avec lesquels on va faire des Shinrin Yoku, on va faire de la création. Donc, tout ça sur un lieu spécifique de forêt, où j'ai déjà fait une première semaine de résidence d'écriture, où je vais en faire d'autres aussi. Mais donc, c'est vraiment des laboratoires fascinants. J'adore écrire là-bas, j'adore tracer des sentiers. Bon, je ne ferai pas ça avec vous parce que Laurence aurait une crise de cœur, parce que là, je pars avec mon GPS, avec les branches, puis là, pendant des heures, je me promène dans la forêt à me perdre, puis à faire des îles forestières, c'est-à-dire à faire une boucle, puis à revenir sur mes pas. Mais non, demain, on va faire un sentier très, très doux, très, très facile, avec une vue panoramique imprenable. Donc, ça, c'est mes plaisirs de randonneur et d'expérimentateur.
Merci Charles. Avant de nous quitter, j'aimerais bien que tu nous relises
Ah,
un
j'ai un petit
passage du livre.
inédit pour vous.
Encore
Un
mieux.
petit inédit que j'ai écrit. Vous aurez eu au moins un petit aperçu du tome 2. Puis vous vous rappellerez peut-être un jour l'avoir entendu ici. C'est pas tout à fait au niveau de ça, vous comprendrez, mais j'ai quand même travaillé fort. Petit passage s'appelle Champ d'être en fleurs. Le néflier aux pleines feuilles, le prunier qui couvre la pierre de floraison légère, et la vigne à blanchir ses grappes. Les poètes sont accueillis ici avec tous les égards. Officiellement, j'amorce mon repérage de bibliothécaire. Mais la mousse d'envahir la fontaine, mais l'étoile rose des boutons de me maintenir le nez dans le pêcher. Chaque détail de me chuchoter que lectrice et lecteur ne sont pas pressés. La menthe court au bas des murs et la cloche de la mairie implore le temps de ne pas s'arrêter. Je déambule. Je vais d'un pas si menu que j'écris sans ralentir. Le moindre végétal offre ses parfums de nouveauté. Mimosa en pot, la nature n'a jamais été aussi près de la balle de tennis. On dirait un millier de lobes suspendus, sans filet. Carnet léger, je remplis mes poches des arômes que je croise. Je mâchouille quelques fleurs. L'infusion du soir sera douce. Visiblement, l'olivier au reflet argenté n'a rien à produire. Moi non plus. Me laisser écrire par le printemps suffit. Je ne trouve rien de plus invitant que traverser le présent. Et le petit haïku. Au creux de ma paume, on dirait des signes mauves, fleurs de romarin. Est-ce que vous avez deviné c'est où? Vosgène. Vous le saurez, c'est pas dit dans le livre.
Grand merci, Charles.
Grand merci à vous.
Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.
Merci.